Docteur Miller, bonjour.
Bonjour.
Quand on s'intéresse à la maladie de Lyme, on se rend compte qu'elle existe depuis des siècles. Elle accompagne l'homme depuis quasi toujours. Elle représente la plus fréquente des maladies infectieuses transmises par un animal dans l'hémisphère nord. Mais au Québec, c'est une petite nouvelle. Comment on peut expliquer cette apparition et également cette augmentation de la maladie de Lyme?
Il faut comprendre qu'aux États-Unis, donc la maladie nous vient du nord-est des États-Unis, de la Nouvelle-Angleterre. C'est là qu'elle a été découverte. Comme vous le dites, elle existe depuis longtemps, mais elle a été découverte à la fin des années 70. En fait, dans une ville qui s'appelle Lyme au Connecticut, mm-hmm. À partir de là, on l'a appelée du nom de maladie de Lyme. Mais donc, les tiques, au fond, ce qu'on comprend, c'est qu'elles ont progressé au fur et à mesure des décennies en s'approchant de nous, en allant vers le nord. Et c'est vraiment depuis environ les années 2005 qu'on retrouve beaucoup de tiques dans le sud du Québec, en particulier près de la frontière américaine. Et ces tiques-là, donc avec le temps, sont devenues infectées par... Elles ont augmenté en nombre et elles sont devenues infectées par la bactérie qui cause la maladie. Et comme vous l'avez mentionné, donc dans les dernières années, on a vu davantage de personnes qui ont été infectées.
Mais est-ce que c'est dû au réchauffement climatique?
Le réchauffement climatique peut jouer un rôle, certainement, mais il y a vraiment une progression de la tique vers le nord, tranquillement, puis elle avance. Sauf que il faut voir que dans des conditions difficiles, par exemple avec des hivers rigoureux, mm-hmm. prolongés, la tique ne peut pas bien survivre. Alors, c'est certain qu'à ce moment-là, si on a des étés plus longs, des températures plus chaudes, ça va favoriser la survie de la tique et ça nous met davantage à risque d'être exposés.
On parlait des régions davantage touchées au Québec, qui sont près de la frontière américaine. Il y a la Montérégie qui est également beaucoup touchée, je crois, ici.
Oui, c'est ça. On parle de la Montérégie, un peu de l'Estrie, et on voit que ça se dirige vers l'est, on pourrait dire vers le centre du Québec. Mais pour le moment, les zones les plus à risque, c'est le sud de la Montérégie, près de la frontière.
Mm-hmm. On parle du Mont-Saint-Hilaire là, comme foyer principal de transmission de la bactérie, de la maladie de Lyme.
Bien, c'est un endroit parmi d'autres. Je vous dirais que les grandes forêts en Montérégie ou les montagnes où il y a des forêts en Montérégie, bien évidemment, ce sont des sites très favorables. La tique a besoin d'un environnement naturel où plusieurs animaux se retrouvent, mm-hmm. et donc c'est pourquoi on la retrouve vraiment dans les forêts, les boisées, et non pas dans les champs comme tels.
Uh-huh. Et la maladie peut s'agripper à des animaux, comme vous venez de le dire, Dr Miller, comme par exemple des oiseaux.
Oui, en fait, les oiseaux sont un des facteurs qui favorise la propagation, mm-hmm. de la tique, parce que la tique doit piquer, que ce soit un animal ou un humain, elle doit rester accrochée pendant plusieurs jours pour prendre le repas de sang dont elle a besoin. Alors, on comprend que si elle pique un oiseau, bien, elle peut se retrouver à une grande distance du point, mm-hmm. de départ quelques jours plus tard. Et donc, ça peut, à ce moment-là, donner naissance à une nouvelle population de tiques dans ce nouvel environnement-là.
Et juste pour être certaine de bien comprendre, est-ce que toutes les tiques sont porteuses de la bactérie ou une tique à patte noire pourrait ne pas véhiculer la bactérie?
En fait, c'est une petite proportion des tiques qui sont positives, mm-hmm. donc qui sont porteuses de la bactérie. Au Québec, on parle d'autour de 15 % entre 12-17%, enfin ça dépend un peu des endroits, mais c'est ça, autour de 15%. Donc 85% des tiques n'ont pas la bactérie. Par contre, on sait que dans les endroits aux États-Unis où la maladie est installée depuis très longtemps, mm-hmm. on peut avoir des proportions plus élevées, peut-être de 40% des tiques qui sont infectées. Mais ce n'est jamais toutes les tiques qui sont infectées.
Est-ce qu'il y a des mesures en ce moment qui sont mises en place pour éviter justement que les tiques soient infectées ici?
On ne peut pas vraiment prendre de mesures pour, en tout cas à ce moment, pour contrôler les tiques. On comprend que, étant donné que les tiques vivent dans un environnement naturel, il faudrait bouleverser cet environnement-là, mmh. par des mesures pour modifier la situation au niveau de l'installation de la tique et de finalement de l'infection par la bactérie.
Mmh.
ce qu'on doit faire surtout, c'est vraiment d'informer les gens des différents moyens de se protéger en comprenant où la tique se trouve et aussi comment la tique se comporte.
Bien, justement, parlons-en tout de suite, Dr Millard, de ces stratégies de prévention, parce que bien sûr, c'est l'été qui s'en vient, on ne veut pas rester à l'intérieur, on a envie de sortir, d'aller en forêt, en expédition, peut-être de jardiner, tout ça. On ne veut pas dire aux gens de s'empêcher de le faire. Comment on prévient les piqûres de tiques?
Alors, vous avez raison, on souhaite surtout que les gens continuent leurs activités extérieures, mais en comprenant ce nouveau problème, ce nouveau risque qu'on peut retrouver dans certaines forêts du sud du Québec. Alors, il faut comprendre d'abord que la tique, elle ne saute pas sur les gens. Donc, elle est accrochée à la végétation et elle va se transférer sur une personne ou un animal qui va frôler la végétation. Alors, elle est dans les herbes, par exemple, dans la forêt, dans le sous-bois, la tique va rester accrochée dans les herbes et donc va se transférer à une personne qui frôle la végétation. Si on circule dans des sentiers dégagés, il n'y a pas de tiques. Les tiques ne sont pas dans le milieu du sentier. Elles doivent s'accrocher à la végétation. Donc, si on est dans un environnement où les sentiers sont dégagés et qu'on reste dans les sentiers, à ce moment-là, il n'y a pas de danger. L'autre façon d'éloigner les tiques, ce sont des mesures qu'on utilise aussi pour les moustiques, c'est-à-dire l'utilisation d'un produit chasse-moustique. Mm-hmm. On dit souvent un produit qui contient le DEET, donc oui. Le composant chimique qui s'appelle le DEET. On a aussi l'utilisation de vêtements de couleur claire, parce que si une tique vient sur nos vêtements, on va la voir plus facilement s'ils sont de couleur claire. Bon, de mettre les bas du pantalon dans nos bas pour empêcher l'accès à notre peau. Donc, il y a des mesures comme ça. Le deuxième type de mesure, c'est après une activité en forêt, on recommande aux gens de s'examiner pour chercher si une tique a pu s'accrocher à la peau. Puis à ce moment-là, si on en trouvait une, bien on pourrait l'enlever. Mm-hmm. Donc il y a les deux étapes. Donc d'abord éviter d'être piqué, puis ensuite de s'assurer que nous n'avons pas été piqué et de retirer la tique.
Elle est visible à l'œil nu, la tique?
Il faut pas, disons, se raconter d'histoire. C'est tout petit, une tique. Mm-hmm. On parle de quelques millimètres quand on parle de la tique sous la forme nymphe ou adulte. Donc, c'est une arthropode qui a quelques millimètres de grosseur. Une fois qu'il est accroché à la peau et qu'il se gorge de sang, il va grossir. Mais souvent, ce que les gens vont dire, qui remarquent une tique, ils vont dire, c'est comme si j'ai un nouveau point noir sur la peau, une tache que je n'avais pas vue. Puis quand ils vont toucher, ils vont se rendre compte que ben c'est pas ma peau, c'est quelque chose qui est accroché à ma peau. Quand la tique est un peu plus grosse, si elle a commencé à boire du sang, ben là, certaines personnes vont dire, c'est comme si j'avais une petite tétine, j'ai jamais remarqué ça avant. Et donc, en y regardant de plus près, on se rend compte que c'est un arthropode qui est attaché à notre peau et il faut l'enlever.
Ouais. Quelles sont, Dr Millard, les façons de retirer la tique? J'imagine que ça doit être extrêmement délicat comme opération.
Alors, la tique est composée de deux parties. Il y a une partie dure, en fait, on pourrait dire c'est la tête de la tique qui contient aussi le dard qui pénètre la peau. Cette partie dure est collée à la peau et ensuite, il y a une partie plus molle qui va se dilater quand la tique va boire le sang. Donc, ce qu'on recommande, c'est de prendre une pince à pointe fine, la pointe la plus fine qu'on peut trouver chez soi, et de serrer la partie dure de la tique vraiment tout près de la peau. Donc, sur la peau. Et là, quand on tient bien cette partie-là, on retire progressivement la tique d'un mouvement continu. Et voilà, on s'est débarrassé de la tique. Il faut faire attention de ne pas crever la tique en tant que telle ou serrer la partie molle, justement, pour pas briser la tique.
Oui, parce que c'est là que se trouve la bactérie.
C'est là que se trouve la bactérie, effectivement.
Mm-hmm. Bon, advenant le cas que la tique a quand même pu faire son vilain travail. Comment on peut reconnaître les symptômes de la maladie de Lyme? Parce qu'une fois qu'elle nous a piqué, on a la maladie de Lyme, c'est bien ça.
Bien, si la piqûre a été a duré assez longtemps, on comprend que dans les 24 premières heures, c'est un processus très, très lent pour la tique. Dans les 24 premières heures, il n'y a pas encore de transmission de la bactérie. Mm-hmm. C'est plus tard que ça survient. Donc, après 24 heures, là, le risque commence à augmenter. Une fois donc qu'on est infecté, les premiers symptômes surviennent dans le mois qui suit la piqûre. Ça peut être une semaine, 10 jours, mais ça peut aller jusqu'à un mois. Il s'agit de deux types de symptômes. Des symptômes généraux d'infection, c'est-à-dire de la fièvre, des douleurs musculaires, de la fatigue, et une rougeur au site où la tique nous a piqué.
Mm-hmm.
Donc ça, ce sont les premiers symptômes. Si on remarque ces symptômes-là, évidemment, il faut consulter, on peut téléphoner à Info Santé pour avoir des conseils, consulter un médecin. Donc, il faut vraiment faire une démarche. Si la maladie n'est pas reconnue dans cette première phase-là, donc
c'est-à-dire le premier mois.
Le premier mois, donc peut-être parce que c'est passé presque inaperçu, il y avait très peu de symptômes, on n'a pas fait attention. À ce moment-là, ça peut évoluer et la bactérie va se disperser dans notre corps et peut toucher d'autres organes.
Uh-huh.
À ce moment-là, on parle d'atteinte au niveau du système nerveux. Certaines personnes vont avoir des faiblesses ou des paralysies. On parle de problèmes au niveau articulaire surtout, donc des douleurs dans les articulations. Et plus rarement, de certains problèmes au niveau cardiaque. En fait, c'est le rythme du cœur qui peut être ralenti.
Ce sont des complications assez graves, Dr Miller.
Ce sont des complications assez graves. Malgré tout, qui se traite relativement bien, évidemment, le plus tôt étant le mieux.
Et ça se traite par des antibiotiques?
Ça se traite par des antibiotiques. Quand on est dans la première phase, on parle d'un traitement antibiotique avec un médicament qui est utilisé couramment pour les infections, qu'on donne pendant 2 semaines, 3 semaines. Donc, le médecin va vous recommander cela. Et dans la grande majorité des cas, c'est suivi par une guérison, disparition des symptômes. Quand on est en phase plus avancée, là, généralement, il peut être avisé d'être référé à un médecin spécialiste en infectiologie ou dans un autre domaine en fonction du problème. Et le traitement peut être un peu plus prolongé à ce moment-là. Et ça pourrait arriver, le traitement peut fonctionner assez bien, mais ça pourrait arriver que des personnes gardent comme une séquelle ou une conséquence là, de cette infection pour des mois par la suite.
Mm-hmm. Docteur Miller, est-ce que les médecins québécois sont suffisamment habitués à reconnaître les symptômes de cette nouvelle maladie ici en province?
Vous avez mentionné au début le nombre de cas qui a été rapporté dans les dernières années. Donc, on constate que oui, la maladie augmente, mais c'est quand même une maladie assez peu fréquente. Malgré tout, on en parle beaucoup dans la population, dans les médias. On en parle aussi au niveau des organismes médicaux, les organismes de formation des médecins. Il y a beaucoup d'informations qui est rendue disponible en ligne pour les médecins par différentes organisations de santé publique. Et je pense que de plus en plus, les médecins prennent conscience de cette maladie, comment évidemment l'identifier et comment la traiter.
Oui. Et on sait qu'il y a quand même beaucoup de controverses autour du traitement de la maladie, là, autant chez vos confrères et consoeurs américains qu'ici. Là.
La controverse concerne principalement les personnes qui ont des symptômes disons, on pourrait dire chronique ou à long terme.
Mm-hmm, c'est vrai.
Donc, je ne pense pas qu'il y ait une controverse dans le traitement des symptômes initiaux de la maladie, donc dans les premiers mois. Par contre, chez des patients qui auraient été malades depuis longtemps, là, il y a davantage une controverse sur le traitement le plus approprié, certains prônant des antibiotiques de façon plus prolongée et d'autres disant que ce n'est pas nécessaire. Je pense que il n'y a pas de réponse générale à cette question-là. C'est vraiment pour chaque personne en fonction de sa situation qu'il faut analyser la question.
Je pense en terminant, Dr Miller, qu'il est important de dire que la maladie ici doit être obligatoirement déclarée. Si on se retrouve avec des symptômes, si l'on voit une piqûre sur notre peau, qu'est-ce qu'on doit faire?
Ce qu'on recommande quand il y a une piqûre, c'est vraiment de retirer la tique le plus rapidement possible. Si on a des questions, on peut contacter Info Santé qui pourra nous donner des conseils sur comment la retirer. On peut trouver ces conseils-là aussi facilement sur des sites Internet.
Mm-hmm.
Par la suite, on ne recommande pas de consulter un médecin pour la piqûre de tique en tant que telle parce qu'il n'y a pas d'action à prendre autre que de retirer la tique. Par contre, c'est vraiment à ce moment-là la surveillance des symptômes dans le mois qui suit. Et puis, si on a une inquiétude, à ce moment-là, consulter son médecin pour en avoir le cœur net.
Et de prendre en photo, je pense, la piqûre, de pouvoir noter également à quel moment on peut avoir été piqué, à quel endroit aussi. C'est important, ça, pour la santé publique?
Oui, bien, ce sont des informations qui peuvent être utiles pour la santé publique et pour le médecin. Dans certains cas, si on a conservé la tique, le médecin pourra faire analyser la tique, et ça va être utile pour la santé publique. Mm-hmm. Par contre, je dirais que dans le sud de la province, là où il y a beaucoup, beaucoup de tiques, on ne veut plus nécessairement faire analyser les tiques parce qu'on sait qu'elles sont bien installées, donc ça n'apporte pas d'informations supplémentaires. Mais ça, c'est vraiment le médecin qui vous le dira, est-ce que c'est utile ou pas de faire analyser la tique que vous apportez.
Et d'ailleurs, pour avoir davantage d'informations, on peut aller sur le site de l'Institut national de santé publique du Québec, www.inspq.qc.ca, et avoir davantage d'informations sur la maladie de Lyme. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur le sujet, Dr Miller, Dr François Miller, et je vous souhaite un très, très bel été.
Merci à vous aussi.
Au revoir.
Au revoir.